Bonjour. Dans le cadre de l'année de la BD 2020, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir au salon de lecture Jacques Karchach notre invité Nicolas Finet.
Bonjour.
Bonjour. Vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes auteur, éditeur, documentariste, consultant, journaliste et conférencier.
Ça fait beaucoup de choses.
Ça commence à faire des belles journées. Vous avez commencé dans la presse quotidienne. Dans les... C'est un métier qui vous a permis de voyager beaucoup, si j'ai bien compris,
Absolument, oui.
notamment en Asie, qui va être le sujet de notre rencontre aujourd'hui.
Tout à fait.
Dans les années 2000, vous êtes chargé de mission Asie pour le Festival international de la BD d'Angoulême. Et on peut ajouter encore dans vos casquettes la casquette de commissaire d'exposition, puisque justement, vous avez fait une exposition à Angoulême sur la bande dessinée coréenne.
Deux même.
Deux.
Deux. Il y en a eu une en 2003, qui était le moment inaugural où les Coréens, je dis les Coréens collectivement, les éditeurs et les auteurs coréens sont arrivés en France, en fait. Personne ne les connaissait, personne ne les attendait. Ils sont venus une première fois en force. C'est ce qui a installé la première vague de la bande dessinée coréenne traduite en français. Ils sont revenus 10 ans après, donc comme une sorte d'anniversaire en 2013, pour présenter à nouveau une grande exposition collective. Et à nouveau, je m'en suis occupé à cette époque-là. Voilà. Puis après, mes chemins se sont éloignés d'Angoulême et, voilà, et j'ai fait autre chose. Mais...
D'accord. Donc dès 2018, en fait, vous rejoignez la maison d'édition la rue de l'Échiquier.
2017 en fait,
2017.
et ça a même en fait j'ai été approché même un peu avant, mais pour justement jeter les bases de ce qui deviendra ce qui est aujourd'hui le domaine bande dessinée de rue de l'Échiquier. Mais les premières parutions en fait ont commencé en 2017 parce que évidemment entre le moment où on le décide et le moment où ça se concrétise, évidemment ça nécessite quand même un petit peu de temps.
D'accord. Et donc justement, là, on va parler de la Corée et précisément de deux auteurs qui sont donc édités chez vous en français, Chae Kyu-suk
Voilà, Chae Kyu-suk.
et Park Geun-woong.
Voilà.
Voilà, si j'ai bien prononcé.
Qui sont tous les deux donc des Coréens et qui sont tous les deux des auteurs qu'en fait j'ai connus précédemment. C'est-à-dire, j'ai aussi fait une activité d'éditeur naguère chez Casterman, puisque j'ai eu une longue histoire avec Casterman à travers une revue aujourd'hui disparue, mais qui a été assez célèbre, qui s'appelait À suivre. Et donc j'ai connu ces deux auteurs coréens à l'époque où Casterman publiait des auteurs coréens, avait même une collection coréenne que j'avais contribué à installer. Voilà, donc ce sont deux auteurs que j'avais identifiés, qui sont très doués à mon avis. Et donc effectivement, quand Rue de l'Échiquier s'est construit, je suis allé regarder ce qui était publiable de leur part, enfin ce qu'ils avaient réalisé en Corée qui pouvait intéresser cette maison.
D'accord. Et justement, dans les domaines que traite Rue de l'Échiquier, plutôt l'écologie, les rapports humains, ces BD s'inscrivent complètement dans la politique éditoriale de la
Voilà,
maison?
c'est ça. C'est-à-dire que ce qui s'est passé. Donc, Rue de l'Échiquier, à l'origine, c'est un éditeur de sciences humaines, hein, qui existe depuis une douzaine d'années maintenant. Donc, qui vient pas de la bande dessinée a priori, mais qui en revanche a construit son territoire éditorial d'emblée sur des sujets qui sont ô combien d'actualité aujourd'hui, qui sont l'écologie, le développement durable, les questions de citoyenneté, etc. Et donc, mon cahier des charges pour cette maison, d'emblée, ça a été Thomas Bou, le fondateur, que je salue au passage, m'a dit, écoute, l'idée, c'est que tu prolonges en bande dessinée ce qu'est le territoire thématique de cette maison. Donc, d'essayer d'aller chercher des sujets ou des auteurs ou des préoccupations qui s'inscrivent dans ce territoire thématique là. Et donc, c'est ce que je fais depuis que j'ai créé ce domaine bande dessinée sur Rue de l'Échiquier, donc avec des auteurs comme Chae Kyu-suk. Donc, Chae Kyu-suk, qu'est-ce que c'est? Ce qu'on publie, la série, c'est une série en 6 volumes qu'on a titré Intraitable. En fait, en coréen, le titre, si on le traduit littéralement, ça s'appelle Le Poinçon, avec l'idée de quelque chose d'assez fort qui permet de percuter le réel. Mais bon, c'était assez, je trouvais que c'était un peu loin du sens et que c'était pas forcément immédiatement compréhensible en français. Et en revanche, on a choisi de titrer ça Intraitable en français parce que c'est l'histoire d'une lutte syndicale, d'une confrontation assez abrupte, pas violente, mais quand même brutale, entre des salariés dans le monde coréen d'aujourd'hui. Enfin, ça se passe au moment des années 2000, donc c'est presque aujourd'hui, et leur employeur qui se trouve être une multinationale. Et en ce sens, c'est un thème qui rejoint ce qu'avait déjà traité l'Échiquier par ailleurs dans son domaine essai, par exemple en racontant ce que sont les comportements de Total, par exemple, un auteur qui s'appelle Alain Deneau, qui était québécois, je crois, qui a fait un bouquin remarquable sur ce que c'est qu'une multinationale et comment une multinationale se comporte. Et en général, on le sait, les multinationales ne se comportent pas forcément bien. Voilà. Et donc là, Thieu Kyu-seok, dans Intraitable, relate en fait une histoire qu'on ne connaît pas très bien ici parce que c'est un peu loin de nous, mais que les Coréens, en revanche, connaissent fort bien, qui est la façon dont, en fait, Carrefour, puisque le vrai acteur, même si ça n'apparaît pas dans le livre, qui est une fiction, donc il y a une sorte de licence littéraire, de transposition, mais en
C'est
fait.
fourmi, c'est ça?
Voilà, ça s'appelle Fourmi, mais en fait, tout le monde, enfin, tous les Coréens qui connaissent cette histoire savent très bien qu'en réalité, il s'agit de l'histoire de Carrefour en Corée. Donc Carrefour arrive dans les années 90 en Corée. Alors il faut resituer, à l'époque, il y a une grosse crise économique et financière à la fin des années 90 partout en Asie, hein, ce qui déferle sur toute l'Asie. Toutes les places boursières plongent, enfin il y a une crise assez dure. Moi j'ai connu cette période puisque je l'ai couverte, j'étais encore journaliste à cette époque et je l'ai couverte pour la presse magazine française. Donc j'ai beaucoup voyagé partout en Asie à cette époque et c'était une crise assez violente. Et donc l'économie coréenne était sinistrée et arrivent à ce moment-là des grands groupes étrangers, non asiatiques, qui évidemment profitent de l'occasion pour s'implanter à relativement peu de frais. Dans ces pays-là, en fait, ils tirent parti d'une situation, ce qui est le vécu normal, disons, du capitalisme ordinaire. Mais voilà, donc Carrefour arrive en Corée à la faveur de cette crise, choisit de s'implanter parce que la Corée est un pays développé, mûr, avec quand même une économie dynamique, même si à l'époque c'est un peu difficile. Et il s'implante. Mais il s'implante avec des méthodes. On dirait des méthodes de cow-boy. Enfin, ils arrivent de la France avec leur certitude, avec leur façon de faire, et ils prennent pas du tout en compte ce qu'est la culture locale. Et ça clash, parce que les Coréens, pris collectivement, c'est un peuple qui sait ce que c'est que la résilience et la résistance. Parce que s'ils existent encore en tant que pays aujourd'hui, pris en sandwich entre deux géants que sont la Chine d'un côté et le Japon de l'autre, c'est précisément parce qu'il y a une âme collective et il y a un peuple qui connaît ces façons de résister à un environnement qui peut être hostile. Et donc quand Carrefour arrive, avec ses méthodes, encore une fois, venues d'Europe et qui cherchent à les imposer brutalement, ça ne se passe pas bien du tout. Voilà. Et ça dégénère assez vite. Les Coréens ont un taux de syndication assez important. Donc il y a des syndicats qui ne sont pas du tout embryonnaires, qui sont des organisations assez puissantes en Corée, qui s'opposent tout de suite. Puis il y a sans doute en plus par là-dessus une petite couche de nationalisme, parce que les Coréens ont une espèce de fierté collective qui est qu'ils ne vont quand même pas se laisser embêter par des étrangers, quoi, surtout des étrangers blancs. Enfin voilà, donc qui décide de ne pas se laisser faire, et donc voilà, ça ne se passe pas bien. Et ça dégénère, alors je raccourcis, hein, je fais toute l'histoire, mais là en l'occurrence, je ne spoile rien, parce que la fin, on la connaît, puisque au bout du compte, au bout de quelques années, Carrefour a pris ses clics et ses claques et est rentré en Europe. Et ils ont abandonné, à mon avis, ils ont été sages, parce que je pense que ça serait de toute façon pas bien fini. Ils ont abandonné leur projet coréen et ils sont rentrés en Europe et les Coréens ont donc éjecté, fini par éjecter, à force de résistance, l'envahisseur, si on peut, en tout cas l'envahisseur économique venu d'Europe. Voilà. Donc, ce que raconte Intraitable, c'est ça. Alors, d'une façon encore une fois transposée, parce que ça ne s'appelle pas Carrefour, parce que ce n'est pas exactement la même chose, mais Mais Tchécloussoc raconte ça au ras du réel. Hein. On est vraiment dans le rayon fruits et légumes. C'est ça qui est assez chouette, je trouve, dans cette histoire, c'est que y a pas de lyrisme. Il a privilégié un récit qui est un ras de terre, mais vraiment très très fort, et avec des personnages qui sont eux aussi très forts.
Oui, alors ça s'articule essentiellement autour de deux personnages. J'ai eu la chance de finir le tome 3 qui est sorti le 17 septembre.
Oui.
Et donc, il en est à la moitié de cette
Voilà.
histoire. Donc, le premier personnage, c'est Gou, hein, qui est une sorte de bienfaiteur, défenseur des droits,
Alors oui, on pourrait.
conseiller.
Alors, il n'y a pas d'équivalent, je crois, ici, mais il a une petite agence qui est en fait une agence syndicale. Une agence syndicale qui accepte des missions en entreprise pour défendre des salariés. Donc lui, voilà, c'est un espèce de vétéran des luttes syndicales, parce que c'est pas un jeune homme, il n'est pas très âgé, mais il n'est pas non plus très jeune. Et voilà, et les salariés de cette entreprise viennent le chercher pour, disent-ils, essayer de leur apprendre de quelle manière on résiste.
Et justement, donc, il va rencontrer dans le tome 1 Lee, qui donc lui est manager dans cet hypermarché au rayon fruits et légumes, comme vous l'avez bien rappelé, et qui lui va faire ses premières armes dans le syndicalisme, justement grâce à
C'est
Gou.
ça. Alors lui, c'est un jeune cadre. Hein. Si on essaie de résumer en termes d'archétype, c'est plutôt Gou, c'est un vétéran. Lee, c'est plutôt un jeune cadre qui normalement devrait plutôt basculer du côté du management. Hein. Sauf que c'est un idéaliste et que lui, il a les injustices en horreur. Et que donc il se prend d'affection, il prend à cœur cette thématique de la défense des salariés, parce qu'il voit justement de quelle manière les salariés de cette grande chaîne d'hypermarchés sont pas bien traités du tout, avec tout ce qu'on connaît, hein, dresser les gens les uns contre les autres, essayer de créer la division partout, jouer sur la lassitude des gens. Enfin bon, voilà, c'est des méthodes qui sont connues, là, pour le coup, bien ailleurs qu'en Corée, c'est des classiques des grandes boîtes.
Du harcèlement avéré.
Voilà. Alors, mais pour en revenir à ce personnage de Lee, là aussi où ça rippe, c'est que Lee, c'est un ancien militaire. Et là, c'est intéressant. Et là, pour le coup, c'est assez spécifiquement coréen. C'est-à-dire qu'il faut. Donc, Lee, c'est un type qui est passé par l'armée, qui a passé pas mal d'années dans l'armée. Et donc, il en a ramené une espèce de rigueur morale. C'est un ancien officier. Il a appris ce que c'est que l'obéissance, ce que c'est que travailler dans un collectif où on n'aime pas beaucoup l'originalité. Mais ce qu'il y a de spécifiquement coréen là-dedans, c'est que la Corée, c'est un pays en guerre. Toujours. Aujourd'hui encore. Et donc, à l'époque où ça se passe, hein, l'époque où se déroule cette histoire, c'est au carrefour des années 90 et 2000. Hein, donc, un peu après cette crise financière dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, à cette époque, tout jeune homme coréen faisait, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, je n'ai pas l'actualité, mais à l'époque, faisait 2 ans et demi de service militaire. 2 ans et demi. Et 2 ans et demi, pas dans une armée de conscrits qui va traîner ses guêtres gentiment dans la campagne. 2 ans et demi dans un pays enfin, qui est susceptible de rebasculer dans la guerre du jour au lendemain, puisque il faut rappeler que à la fin de la guerre de Corée, ce qui a été signé, c'est un cessez-le-feu et un armistice, mais la paix n'a jamais été signée. Et donc ces deux pays, la Corée du Sud et la Corée du Nord, sont toujours virtuellement en guerre, et sur le papier en tout cas, ça peut redémarrer n'importe quand. Ce qui fait que l'armée sud-coréenne, on n'est pas chez les pas chez les jésuites, quoi. C'est pas le. On est dans une armée dure qui est prête, qui a le doigt sur la gâchette et qui est prête à repartir au combat demain. Donc, ce personnage de Lee, il vient de là. Et donc, lui, les difficultés, le combat collectif et l'adversité, il connaît, parce qu'il a appris à gérer ces situations. Donc, l'adversité qui naît au moment, enfin, face au management français de cette chaîne d'hypermarché, il connaît aussi. Et donc, il décide de faire alliance avec ce Gou, qui est extérieur à l'entreprise. Et tous les deux, ils vont incarner la résistance et ils vont fédérer autour d'eux les employés de cette boîte qui, pour partie, sont des femmes. Donc avec les difficultés que ça peut impliquer d'être mère, d'avoir des enfants et de devoir mener de front une activité salariée et de gérer une famille, etc. Sachant que par ailleurs la Corée est tout de même un pays assez machiste. Donc voilà, donc il y a beaucoup de femmes parmi ces salariés, comme c'est le cas effectivement dans la grande distribution dans tous les pays du monde. Et donc Intraitable raconte ça au quotidien. Avec les manœuvres de la direction, avec les maladresses aussi de cette direction qui prend ses ordres en France. Et donc, évidemment, à Paris, on ne comprend rien à tout ça. Paris dit, mais faites-moi marcher tout ce monde-là du même pas, et hop, hop, hop. Mais c'est pas comme ça que ça se passe.
Non, effectivement. Monsieur Gaston, le responsable de la grande chaîne, est un personnage assez succulent, je dois l'avouer. Ça commence difficilement d'ailleurs pour eux. Au départ, ils ont du mal à fédérer les salariés.
Bien sûr, mais comme dans toutes les luttes syndicales, hein, au début, je pense que la plupart des luttes syndicales, y compris chez nous, c'est pas forcément facile d'emmener des gens dans le conflit, parce que un conflit syndical, il y a une part aussi de renoncement, il faut accepter éventuellement de perdre de l'argent, il faut accepter des moments de confrontation, pas physique, mais presque, hein. À un moment, il y a des nervis aussi qui apparaissent, qui ont été recrutés par la direction pour casser la grève, hein.
Oui.
Ça existe, on sait bien. Donc, non, non, c'est pas simple.
Et donc, oui, ils ont la pression énorme de la direction et les vacheries sont hallucinantes, hein, sur ce qu'ils font pour faire renvoyer des salariés. En ce qui concerne le dessin, de chez Cusock. Ce qui m'a frappé, moi, à la lecture de ce manhwa, parce que je crois qu'on dit
Oui,
manhwa
manhwa,
pour...
absolument. Manga en japonais, ça veut dire la même chose, hein, strictement, mais bon,
C'est
c'est la prononciation qui varie.
l'alternance de cases, parfois très claires, très détaillées, et parfois dans une sorte d'aquarelle presque, avec plus de traits.
Oui. Alors, il a travaillé en noir et blanc. Hein, c'est ce qui caractérise ce livre. Il y en a beaucoup comme ça en Corée. Et il a travaillé en lavis, hein, effectivement, avec des niveaux de gris comme ça. Mais ce qui est génial, c'est que, donc, encore une fois, on est dans l'environnement d'un hypermarché qui n'est pas spécialement, a priori, un décor glamour. Hein, mais il a une telle science de la narration en images et un tel art du découpage qu'il sait donner de l'action et rendre ça palpitant, alors que si on fait un pas de côté et qu'on regarde ça un peu à distance, on se dit, ouais, c'est un supermarché. Enfin bon, c'est la Corée d'aujourd'hui. En plus, quand on connaît la Corée, les villes coréennes, c'est pas spécialement joli non plus. L'urbanisme coréen, en tout cas. Non, il sait magnifier tout ça et faire de ce récit vraiment quelque chose de palpitant. Et enfin, pour moi, c'est pour ça que c'est un grand auteur. J'avais déjà constaté ses atouts et ses talents-là dans ses autres livres auparavant, et quand j'ai fait sa connaissance il y a longtemps maintenant, et vraiment c'est un grand auteur.
Oui, parce qu'avant Intraitable, il avait publié en France quelques
Alors,
recueils.
absolument, il y a eu son tout premier livre apparu chez Cana. Il était en équipe avec un autre auteur de la même génération que lui qui s'appelle Byung Ki-yeon. Et ils avaient fait un livre qui s'appelle Nui Chajang, qui est, si ma mémoire est bonne, un recueil de récits courts. Et puis ensuite, moi, j'ai édité chez Casterman L'amour est une protéine, qui est son premier recueil perso, qu'il a fait seul. Puis ensuite, il y a eu quelques autres livres, Le Marécage, dans cette collection Hangook, aujourd'hui défunte chez Casterman, mais qui était intéressante. Enfin, il a déjà publié plusieurs livres.
Mais là, avec Intraitable, c'est la première fois qu'une série complète de lui est parue en France.
Absolument, absolument. C'est la première fois qu'il y a une série de Chekou Sok et c'est la première fois que nous, Rue de l'Échiquier, éditons autre chose qu'un one-shot.
D'accord. Et pour entrevoir un peu la popularité de cette série, elle a été adaptée à la télévision coréenne.
C'est ça, ça a paru. Alors, là aussi, on peut coréaniser un peu l'histoire. Donc en Corée, le mode de publication de la bande dessinée maintenant, c'est le webtoon. Donc première étape de publication sur Internet, comme dans une bande dessinée, si ce n'est que le mode de lecture se fait en scrolling, hein, en descendant de haut en bas. Et le second étape de publication, c'est le livre, lorsque Internet a consacré un succès, une réussite publique. Et puis, lorsque vraiment ça a bien marché, là arrive le monde de l'audiovisuel, parce que, comme toujours en Asie, il y a une porosité, hein, entre le monde de l'édition et le monde de l'audiovisuel. Et donc, effectivement, cette série, enfin, qui s'appelle pas Intraitable en coréen, mais qui s'appelle Le Poinçon en coréen, mais voilà, c'est la même chose, a fait l'objet d'une adaptation en prise de vue réelle. De mémoire, il y a eu une douzaine d'épisodes, je crois. À la télé diffusée sous forme de série télé, quoi. Donc ça veut dire que c'est un gage de qualité quand même.
D'accord. Donc le tome 3, je vous l'ai dit tout à l'heure, enfin on l'a dit tout à l'heure, est sorti le 17 septembre. Le tome 4, on a déjà une petite
Alors
date?
il n'est pas planifié encore. Non, il n'est pas
Non.
planifié, mais ce sera l'année prochaine. Mais bon, de toute
D'accord.
façon, maintenant on est presque en 2021 déjà, mais je peux pas avancer de date. Puis alors avec la situation actuelle, évidemment, il y a un petit peu plus de, non pas d'indécision, mais d'imprécision sur les échéances de publication, parce qu'on est quand même tous suspendus à la façon dont on va pouvoir sortir, ou en tout cas mettre un terme, ne serait-ce que temporaire, à cette situation sanitaire.
Autre auteur dont on voulait parler ensemble, que vous avez également édité donc dans la maison rue de l'Échiquier, c'est Park Kun-wong. Autre auteur très intéressant aussi, vivant également, dans un style complètement autre qu'Intraitable, mais qui s'attache aussi à l'histoire coréenne et au moment sombre de l'histoire coréenne. Et là, avec Mémoire d'un frêne, on est dans un passage assez cruel, justement, dans les années 50 de l'histoire coréenne.
Oui, alors peut-être on peut juste, pour commencer, dire que l'histoire, Park, c'est ça son sujet. C'est le sujet de, à ma connaissance, presque tous ses livres. C'est un auteur assez politique, plutôt engagé à gauche. Et son sujet, c'est l'histoire contemporaine coréenne. C'est la Corée, c'est un fou de son pays, il adore ça. C'est pas un nationaliste, hein, du tout, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais voilà, c'est un type qui est très, très, très motivé par l'histoire de son pays. Évidemment, l'histoire de son pays, en particulier au XXe siècle, c'est une histoire douloureuse. D'abord une colonie japonaise, puis ensuite un pays déchiré par la guerre civile pendant 4 ans avec des millions de morts. Enfin bon, c'est un sacré truc. Puis une dictature jusqu'au début des années 90. Donc quand même, ça fait beaucoup pour un seul pays. Donc c'est aussi pour ça que les Coréens ont un caractère très fort collectivement parlant, parce que pour avoir traversé tous ces événements et continuer à exister en tant que peuple, c'est qu'il y a quelque chose quand même. Donc c'est son sujet, l'histoire. Moi j'avais croisé là aussi Park Kun-wong, mes anciennes aventures chez Casterman, et j'avais édité il y a des années ce qui était son premier livre qu'il avait publié très jeune. Il était encore à l'armée quand il l'a terminé. Il était obligé de se cacher pour le dessiner parce que c'est une œuvre assez engagée idéologiquement. Ça s'appelle Fleurs, c'est une trilogie de 1000 pages et que j'avais fait paraître et fait traduire chez Casterman il y a une quinzaine d'années. Donc c'est comme ça que je connais Park, et je l'ai connu vraiment pour le coup au tout début de son parcours d'auteur, puisque aujourd'hui c'est un type qui a une quarantaine d'années, une jeune quarantaine d'années, Park. Donc c'est encore un auteur assez jeune, mais il a beaucoup, beaucoup produit. Et donc évidemment, j'ai gardé un œil sur lui. J'ai pas été le seul d'ailleurs, parce que certains de mes confrères ont bien vu que c'était un auteur de talent, et donc d'autres que moi ont édité certains de ses livres. Il y a eu un diptyque chez Cambourakis, il y a eu un autre livre chez Casterman, il y a eu une publication chez Vertige Graphique qui s'appelle Massacre au pont de Neuguenry, qui est un super, super livre sur, encore là aussi, un événement très tragique qui se passe j'allais dire la Seconde Guerre mondiale, un peu après la Seconde Guerre mondiale, pendant la guerre de Corée, un massacre oublié. Et c'est ce que raconte aussi Mémoire d'un frêne, donc, que j'ai édité en 2017, qui a fait partie de la première vague des 3 livres que nous avons publiés pour lancer la collection. Alors, ça se passe en 1950 exactement, ça passe à l'été 50. Et c'est une histoire tout à fait vraie, hein. Park a exhumé, alors c'est pas lui qui a exhumé l'histoire. L'histoire a été exhumée par un certain nombre de militants qui voulaient qu'on se souvienne des épisodes, de certains des épisodes tragiques qui avaient été étouffés par la suite par la mémoire collective coréenne, parce que ça arrangeait les gouvernements successifs qui se sont succédés. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? On est en 1950. Les deux Corées qui se font face, qui ne sont pas encore deux pays distincts, mais enfin, la guerre civile vient d'éclater, juin 1950. Et donc il y a le nord d'obédience communiste et le sud fidèle, disons, à l'économie de marché ou au monde capitaliste. Ces deux factions entrent en guerre armée, hein, donc conflit armé. Et il y a au sud un certain nombre de. Là aussi, il faut se remettre dans l'époque, hein, on est en 50, donc le communisme est encore une force assez vivace et qui a une force de conviction. Et il y a un certain nombre de gens au sud qui sont tout à fait sympathisants, voire militants du communisme. Si ce n'est que lorsque la guerre se déclenche, là, on ne fait plus dans le détail, et le pouvoir en place au sud décide d'emprisonner les militants communistes et de garder un œil, et plus que ça, sur un mouvement qui s'appelle la Ligue Bodo, et qui a été à l'époque mis en place par le gouvernement du Sud pour essayer de, en quelque sorte, rééduquer les sympathisants communistes. C'est-à-dire qu'il y avait tout un tas de gens qui n'étaient pas affiliés au Parti communiste coréen, mais qui avaient plutôt des sympathies. Mais si on se reporte à cette époque, il y a eu la même chose en France avec un Parti communiste après-guerre qui a été extrêmement puissant et qui avait énormément de sympathisants, énormément de militants, mais aussi beaucoup, beaucoup des millions de sympathisants. Donc là, en Corée, il y avait des sympathisants communistes et le gouvernement du Sud a essayé d'abord de les contrôler en créant cette Ligue Bodo, qui était une ligue de rééducation, de réhabilitation pour essayer de remettre les gens dans le droit chemin. Mais lorsque la guerre éclate, ces gens-là sont suspectés de pouvoir devenir potentiellement, non pas seulement des sympathisants, mais de pouvoir potentiellement devenir des combattants, donc en quelque sorte une puissance infiltrée au cœur même du Sud, qui lui n'est pas communiste du tout, et le président de l'époque décide, ordonne le massacre. Et donc, en juin 1950, la police sud-coréenne et l'armée sud-coréenne, main dans la main, avec très probablement, non pas la participation active, mais la passivité, sous l'œil passif des militaires américains, enfin de certains d'entre eux en tout cas, ordonnent des massacres et on liquide tout le monde. Et on liquide, là on ne parle pas de quelques cas isolés. Aujourd'hui, il y a eu des enquêtes qui sont faites, on a exhumé des charniers, etc., etc. Le chiffre minimum, c'est qu'il y a au moins 100 000 morts, peut-être 200 000. Voilà, donc, alors que pendant longtemps, la version officielle, c'était qu'il y avait eu un peu plus de 4 000 morts. Donc on est très, 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 très loin de la version officielle. Et pendant longtemps, ça a été complètement étouffé parce qu'évidemment, ça raconte un massacre de civils, hein. On ne parle pas de forces combattantes. C'est des gens qui étaient juste des pauvres paysans du coin qui trouvaient que peut-être ça pouvait être sympa de s'organiser collectivement et donc que le communisme n'était pas forcément acheté à la poubelle d'emblée. Et ces gens-là ont été liquidés. Liquider. Voilà, donc le fait historique, c'est ça. Et il y a un écrivain donc, qui a commencé à raconter cette histoire parce que son grand-père faisait partie des victimes. Il s'appelle Chaeyoung-tak. Et Park Geun-wook s'est emparé d'une nouvelle qui a été écrite par cet écrivain et a fait son livre, Mémoire d'un frêne, à partir de ça. Donc c'est un livre de 350 planches environ, un peu plus, et qui est un livre saisissant parce que c'est le récit d'un massacre minutieux, épouvantable, hein, mais est tellement épouvantable que l'écrivain et Park aussi prennent le parti de faire raconter ces horreurs par un narrateur qui est témoin de ces massacres, mais qui n'est pas un être humain, qui est un arbre. D'où le titre, Mémoire d'un frêne. Et ce frêne se trouve dans une des vallées où se déroulent ces massacres et raconte ça d'une manière, j'allais dire presque drôle, faut pas exagérer, mais très détaché. Et c'est ce qui rend aussi son récit supportable. Parce que ce que l'on voit à l'image, c'est abominable. C'est un massacre de civils par des militaires, voilà, enfin des militaires ou des policiers, des gens armés en tout cas. Et puis, c'est pas de pitié, sans quartier. Puis ça va jusqu'au moment où les familles viennent essayer de récupérer des corps dans ce qui peut rester de cette espèce de bouillie. Enfin bon, c'est une abomination. Et le fait que ce soit raconté par un narrateur qui a cette espèce de distance extérieure parce qu'il n'est pas humain, fait que ça rend ça supportable et que ça rend même ça fascinant parce que Park, avec ses moyens graphiques qui sont exceptionnels, hein, c'est un traité très charbonneux, très,
Oui.
très profond, très noir, il arrive à rendre ça, j'allais dire presque beau. Enfin, par moments, c'est magnifique, ces pages, même si ça décrit un paysage qui est abominable.
Oui, charbonneux, on dirait presque qu'il dessine au fusain avec des gros
C'est
bouts de
ça,
charbon.
absolument.
Mais justement, ces scènes de combat extraordinaires, enfin violentes, d'une violence inouïe, deviennent presque belles.
Oui, absolument. Et puis alors, ça se passe en été, donc il y a pas mal de scènes qui sont nocturnes, hein, avec la lumière de la lune qui baigne tout ça. C'est très joli. Enfin, c'est joli. C'est pas joli, mais c'est graphiquement éblouissant. Enfin, c'est d'une très grande beauté. Esthétiquement, c'est d'une puissance peu commune. Et voilà. Donc, et ça raconte tout de même une abomination. Voilà. Et c'est vraiment typique du boulot de Parc que je connais bien. Que j'aime énormément et que j'admire plus que tout, il a toujours travaillé à partir de ce matériau historique, depuis ses premiers livres en Corée et traduits en français aussi. C'est son sujet. Il ne quitte jamais ce terrain-là, l'histoire proche, lointaine, etc. Et on va publier, nous, Rue de l'Échiquier, prochainement, un autre de ses livres, très beau aussi, qui est encore plus gros, qui fait 450 pages de mémoire. Et qui est un autre épisode de cette histoire contemporaine coréenne terrible qui se déroule dans les années 70 et où, alors à cette époque-là, c'est la dictature de Park Chung-hee qui a duré des années en Corée. Et à un moment, cette dictature trouve commode de désigner des boucs émissaires et choisit tout à fait arbitrairement d'arrêter 8 personnages. Qui pour l'essentiel sont des monsieur tout le monde, des profs, des gens qui n'ont absolument rien à se reprocher. On orchestre un procès vite fait et on les tue. Voilà, et on les exécute. Voilà. Donc encore une fois, donc ça sera le prochain sujet qu'on va publier, un autre livre de Park qu'on va publier, mais encore une fois, toujours cette matière, c'est l'histoire contemporaine et ses convulsions, et des convulsions qui, la plupart du temps, sont violentes. Donc évidemment, Park, c'est pas un poète, hein, c'est un esthète, mais c'est pas forcément joli ce qu'il raconte. Mais bon, l'histoire coréenne contemporaine, c'est pas drôle non plus, quoi.
Et en dehors de ces deux auteurs, Brut l'échiquier s'intéresse à d'autres personnes.
Ah, oh bah oui, alors on existe depuis le domaine bande dessinée a commencé en 2017. Donc à ce jour, on a publié plus d'une douzaine d'ouvrages. Donc on a publié le dernier, par exemple, que nous venons de faire paraître, n'a rien à voir, sur un tout autre sujet, s'appelle Permacomics. Et c'est une approche de la permaculture en bande dessinée, donc qui explique qu'est-ce que c'est que la permaculture, qui est bien loin d'être un mode de jardinage, mais qui est au fond un mode de vie. Voilà. Donc là, on revient à ce que je décrivais tout à l'heure comme étant les fondamentaux de Rue de l'Échiquier. On a publié, par exemple, Claire Duplan sur le terrain du féminisme, qui est un des sujets qui nous anime aussi. On a fait découvrir Cédric Tailling, qui est un autre auteur français. Qu'on a fait découvrir pour une première fois avec un livre qui s'appelle Thoreau et moi, qui est donc une sorte d'exploration de la pensée de Henry Thoreau, le philosophe américain du 19e siècle, et qui vient de publier cette année un autre livre qui s'appelle Comme une bête, qui est un questionnement autour du fait d'arrêter de consommer des animaux. Voilà, donc là aussi, des sujets qui sont super d'actualité, qui sont très proches de ces questions environnementales qui sont au cœur du projet éditorial de Rue de l'Échiquier, et en même temps avec, bien sûr, une résonance un peu politique, parce que ces sujets-là ne sont pas neutres.
Du tout.
Et on l'assume très bien.
Oui, c'est la ligne directrice de Rue de l'Échiquier, presque.
Voilà.
Normalement, au salon de lecture, on a des questions à la fin d'une intervention. Aujourd'hui, ça va être difficile. Je vais juste vous demander si vous voulez approfondir un des sujets qu'on a évoqués ou nous reparler d'un des auteurs ou d'une des BD.
Là, sur les Coréens, je pense qu'on en a beaucoup dit. Enfin, je vous ai annoncé ce livre de Park Hoon-won qui arrivera. Alors, il va arriver soit fin 2021, soit début 2022. Là aussi, compte tenu des incertitudes du temps, je ne peux pas être beaucoup plus précis que ça. Par exemple, je peux aussi vous annoncer qu'on va publier, là, c'est début 2021, c'est sûr. Donc, tout ça pour illustrer le fait qu'on est très divers dans nos intérêts. On va publier un livre d'un poète écossais qui s'appelle Kenneth White, illustré par un dessinateur français qui s'appelle Patrice Rétier. Le livre est un vagabondage sous forme de haïku graphique. Un vagabondage dans les espaces du monde, et ça s'appelle La voix du vide et du vent. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on fait des choses très variées et qu'on essaie de, tout en restant fidèle à nous-mêmes, de varier les plaisirs.
Merci Nicolas Finet. J'attends avec impatience le tome 4 d'Intraitable, donc en 2021. J'en profite aussi pour rappeler que le salon de lecture, à l'occasion de l'année de la BD 2020, a revu toute sa politique d'acquisition de la bande dessinée. Donc, vous nous avez parlé brillamment de la BD coréenne aujourd'hui, mais on a aussi des auteurs qui viennent d'Afrique, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, du Moyen-Orient et d'Océanie. Voilà.
Et sur l'Asie, je peux témoigner que vous avez un très beau choix, puisque j'ai vos livres, une partie de vos livres en face de moi, et vraiment, c'est très pertinent ce que vous avez, ce que vous choisissez. Voilà, continuez, parce que vraiment, ce sont de très bons choix éditoriaux.
Bah, merci beaucoup au nom de toute la médiathèque. Dès que le musée ouvrira ses portes, le salon sera à nouveau accessible. Ces BD seront accessibles gratuitement au salon de lecture. Merci beaucoup, Nicolas Finet.
Avec plaisir.